RMC. 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Bonjour à tous, bienvenue sur RMC, RMC Story pour discuter, pour débattre. C'est le temps des GG, le temps des grandes gueules avec vous au 32-16 et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Bonjour Olivier.
Salut Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
À tes côtés, Flora Guebali, l'entrepreneur de la transition écologique est avec nous. Bonjour Flora.
Bonjour tout le monde.
Charles Consigny, l'avocat et des nôtres aussi aujourd'hui, il a tombé la veste. Bonjour Charles.
Bonjour à tous.
Et puis Jean-Loup Bonamy, le professeur de philosophie, nous accompagne. Bonjour mon cher Jean-Loup. Aujourd'hui, de quoi va-t-on parler dans les grandes gueules? Avec vous, bien sûr, au 32-16. Les sujets vont beaucoup tourner autour de la canicule, bien sûr. On parlera du gouvernement qui estime que tout est sous contrôle. Est-ce que c'est le champion de la com? On en reparlera aussi avec Fabien Gay, le sénateur communiste de Saint-Denis. On reviendra aussi sur ce qui s'est passé à Narbonne avec ce jeune de 17 ans qui a été lynché à mort par un groupe de jeunes, un guet-apens, avec toujours pareil, c'est des blessures fatales à la tête parce qu'il est tombé dans un guet-apens. Et puis ensuite, c'était des coups de pied dans la tête. C'est fait partie de cet ensauvagement jusqu'au boutisme aujourd'hui d'une partie des jeunes. On viendrait commenter ça au 32-16. La canicule, la climatisation, commençons déjà pour savoir si le gouvernement a raison quand il dit que l'État s'est bien organisé. L'État s'est bien organisé, c'est Madame Monique Barbu qui le dit, elle est ministre de la Transition écologique. Bref, est-ce que tout est sous contrôle ou est-ce qu'on a affaire à des champions de la com?
En tout cas, Sébastien Lecornu a fait savoir que ses ministres pourraient être privés de vacances si la canicule se prolongeait. C'est le syndrome Jean-François Maty de 2003. Vous vous souvenez, pendant la première grande canicule que la France a traversée, on avait reproché au gouvernement de l'époque, gouvernement Raffarin, d'être en vacances et de minimiser, de ne pas se rendre compte de ce qui se passait, notamment dans les hôpitaux. Là, il faut montrer aux Français que les ministres sont sur le pont. Mais sincèrement, qu'ils soient en vacances ou non, qu'est-ce que ça change? Parce que, par exemple, tu parlais de Madame Monique Barbu. L'inconnue Monique Barbu.
Je découvre l'existence.
On découvre Monique Barbu, qui est ministre de la Transition écologique et qui a enfin pris la parole pour nous faire de fausses prévisions météo. Chez nos confrères de France Inter, elle nous a expliqué qu'une troisième canicule était possible à la mi-juillet. Alors, ça fait effectivement partie des scénarios plausibles, mais est-ce que c'est à Monique Barbu de jouer les Marc Hay, le journaliste météo de BFM TV? Donc, ce gouvernement, qu'ils sont en vacances ou pas, qu'est-ce que ça change en fait?
Est-ce que tu connaissais Monique Barbu?
Alors, figure-toi que non, et j'ai eu récemment une réunion avec des acteurs du secteur de la transition énergétique, et ils disaient de toute façon, maintenant, toutes les sollicitations publiques, on les refuse parce qu'elles nous font perdre du temps. Donc, les rendez-vous dans les ministères, ça sert que à être pris en photo pour le tweet d'un ministre qu'on connaît pas et qui va rester 3 mois. Et en fait, il y a une grande lassitude du monde économique dans lequel je travaille sur le fait que les ministres, à part faire des tweets, ils font rien. Et en fait, les acteurs économiques, ils payent des gens, ils ont besoin de revenus, ils ont besoin de lever des fonds, ils ont besoin de financement. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de temps perdu. Et ça, c'est vrai dans beaucoup de secteurs d'activité. C'est beaucoup de temps perdu de discuter avec les acteurs publics. Ce qui est, je le dis, un drame, parce qu'aujourd'hui, on discute d'installer la clim. La clim, elle est chinoise, donc on va encore donner des milliards aux Chinois. C'est ça vers quoi on se dirige.
Et des clims françaises.
Il y a des entrepreneurs français, des acteurs français qui sont hyper talentueux et qui seraient prêts à créer des solutions françaises rapidement, à tout mettre sur la table.
C'est pas Manu Barbu qui va créer des clims françaises.
C'est précisément ce que je dis. Ces gens-là, ils ont besoin d'impulsions politiques. Premièrement, ils ont besoin de financement et de financement public. On sait à quel point l'économie chinoise, elle est sous respirateur politique, sous respirateur public. Et nous, on n'est pas capable de faire ça. Donc en fait, on va encore. En fait, si vous voulez, cette canicule, c'est encore des milliards, c'est encore la Chine qui encaisse.
Mais, mais quand Sébastien Lecornu dit à ses ministres, peut-être pas de vacances cet été, c'est important pour vous qu'ils soient mobilisés, ces ministres?
On vient de dire qu'on ne savait même pas qui était la ministre, donc voilà, la conclusion est vite tirée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout l'autocongratulation, le satisfecit que Madame Barbu se décerne à elle-même. Moi, je suis toujours un peu sidéré par cette tendance du macronisme inaugurée par le premier d'entre eux, par le président de la République, qui consiste à toujours être content de soi. moi j'ai l'impression de voir ses élèves, tu sais, ces élèves qui tournent à 4 ou 5 de moyenne mais qui sont toujours très contents d'eux.
Ça, ce sont des élèves?
Non, pas mes élèves à eux, mes élèves sont très bons, mais donc des élèves qui ont 4 ou 5 de moyenne et qui viennent te voir avec un grand sourire et qui disent « Je suis bon, monsieur, je suis bon, là, j'ai fait du lourd, là !» Ah bah oui, ça c'est sûr, Monique, t'as fait du lourd. Donc, oui, elle se décerne, se satisfait. C'était comme Emmanuel Macron la semaine dernière quand il parlait des violences faites aux enfants avec le scandale du périscolaire, les dysfonctionnements lourds dans l'affaire Liana. Et il disait « Ah oui, mais nous, on est très bons parce que depuis que je suis là, on a libéré la parole. » Non, en fait, Emmanuel, tu n'as rien libéré du tout, t'as libéré que dalle, t'as rien fait, c'est un fiasco complet.
L'expression, c'était même, il y avait un continent caché.
Oui.
Nous avons libéré
donc,
la parole.
Ouais. Monsieur Macron était très content de lui. Et donc là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on voit que les choses dysfonctionnent de manière majeure, que l'État s'effondre, tout dysfonctionne, la sécurité, la justice, l'hôpital, voilà, le manque de places de prison, la gestion de la canicule, les violences faites aux enfants, enfin rien ne va, l'effondrement du niveau scolaire, la désindustrialisation, on pourrait continuer comme ça pendant une demi-heure, rien ne va, mais ils sont contents. À ça, ils sont contents.
Charles.
On a bien géré. Non, rien géré du tout, Monique.
Je pense que ce qui est curieux, c'est que ils sont maintenant persuadés que leur job consiste à gérer le présent. Alors que, il faut anticiper quand même toutes ces crises-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'en France, on a quand même un très grave défaut d'anticipation. Tous ces gens qui, font les esprits sérieux avec leurs costumes, leurs leçons, qui se veulent le cercle de la raison, etc., etc., qui traitent tout le monde de facho ou de déviant ou de complotiste ou autre. En fait, ils sont pas si sérieux que ça, parce que ils n'anticipent pas les crises. On voit bien à Paris, globalement, rien n'a été anticipé sur le plan de la canicule, au sens rien pour s'adapter, pas de clim, pas de voilà dans les.
Pourtant, ceux qui nous dirigent à Paris. Je parle en tant que Parisien, nous explique depuis 25 ans que le réchauffement climatique est une réalité. Là, pour le coup, ils ont eu raison, mais c'est quand même moi ce qui m'interpelle.
Pourquoi toutes les écoles parisiennes sont pas climatisées?
Ce qui m'interpelle, c'est d'avoir alerté, et le maire, monsieur Grégoire, qui était d'ailleurs l'invité d'Apolline, qui est en charge du bâti, c'est lui qui gère la climatisation des écoles, c'est lui, c'est pas l'État, c'est les collectivités. Il a rien été fait.
Oui,
ce matin, il faisait 34 dans la classe de mon fils, à 8h15 du matin.
Oui, Valérie Pécresse qui gère la région, elle a rien fait pour les lycées non plus.
Oui, mais on peut se renvoyer la balle.
Oui,
mais Valérie Pécresse climatise le transport contre la gauche, contre la ville de la gauche, quoi, par exemple. Donc tu devrais pas aller sur ce terrain-là
Paris a sorti les voitures de sa ville, ce qui permet 10 degrés d'économie
chaleur. Oui, c'est pour ça que faisait 40 degrés.
Si on était dans la ville d'il y a 10 ans, on ressentirait 10 degrés de plus.
Mais non, c'est faux, ça, tout ça. Mais en fait, les écologistes, on en parlera dans un instant, accumulent les fake news pour justifier le fait que, pour des raisons idéologiques, ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Donc c'est ça le problème, c'est qu'ils avaient le bon constat, mais ils ne prennent pas les bonnes décisions.
Moi, ce que je trouve étonnant, c'est le manque d'anticipation. Je veux dire, j'aimerais bien, par exemple, qu'on se préoccupe maintenant de la façon dont on va gérer cet hiver, la neige, les problèmes, les tensions sur le réseau électrique. J'aimerais bien les inondations, absolument. J'aimerais bien qu'on s'en préoccupe maintenant qu'on découvre pas à Noël
Charles,
qu'il neige l'hiver.
Charles, il y a un problème dans ton raisonnement. Quand Anne Hidalgo décide de sortir les voitures de Paris, elle fait de l'anticipation. Pourquoi? Parce qu'une ville dans laquelle il y a beaucoup de voitures.
Ça va protéger nos enfants, ça.
Je termine. Une ville dans laquelle il y a beaucoup de voitures, ça augmente de 10 degrés le ressenti de chaleur. Quand elle fait ça, t'es le premier à hurler au fait que tu ne peux pas te déplacer, tu peux pas profiter et jouir de ta ville tranquillement. Le problème, c'est que même quand les politiques mettent toute leur énergie et tous leurs moyens sur la table, il y a tellement de critiques et peu de consensus sur les questions d'adaptation au réchauffement climatique que ils ont pieds et mains liés. Et donc
parce que ils réagissent par idéologie.
Oui, mais ils sont
pas pragmatiques.
C'est pas vrai. Les voitures à Paris, c'est pragmatique.
Le pragmatisme, c'était de mettre de la clim dans les écoles de nos enfants.
Quel est le rapport entre les voitures et l'idéologie à Paris?
Si, parce que elle a consacré, elle restait quand même quoi.
sa priorité, pouvoir, bah, c'est énorme de transformer une ville.
Vous pouvez faire des pistes cyclables, c'est très bien de faire des pistes cyclables, je suis le premier à faire du vélo à Paris. Mais sincèrement, c'est pas à la hauteur, c'est pas à la hauteur de l'enjeu et ça ne protège pas les gens.
J'ai jamais entendu autant de mauvaises voix. C'est à la hauteur, c'est énorme comme politique publique de transformer.
Mais il a détruit Paris.
Mais non, c'est pas énorme. Mais
je te renvoie au réquisitoire de notre ami Charles Consigny face à monsieur Béliard.
Enfin, mais je trouve qu'en tout cas,
faisons pas que sur Paris parce que la Macronie,
pourquoi vous parlez de Paris alors qu'on est en train de parler de Sébastien Lecornu, c'est quand même le premier ministre de
Je suis d'accord avec toi, les Macronistes sont au pouvoir depuis plus de 10 ans.
Il y a trop de Parisiens autour de la table.
Les Macronistes sont au pouvoir depuis plus de 10 ans. Ils avaient effectivement promis de moderniser la France. Et finalement,
ils l'ont fait régresser.
Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas modernisé la France. C'est-à-dire que des hôpitaux où on suffoque, des écoles qui ferment parce que elles n'ont pas les moyens d'accueillir nos enfants.
C'est intéressant. Des trains qui ne marchent plus dès qu'ils
fait chaud. Je suis d'accord, c'est la Macronie.
C'est intéressant ce que tu dis parce que ça montre vraiment ce qu'est la Macronie qui a pour projet. Et c'est continué par Monsieur Attal pour projet de moderniser la France, mais ils se font déjà une idée très fausse de ce qu'est la modernité. C'est-à-dire ils sont dans une forme de fantasme sur la start-up nation, mais vraiment ce qu'est vraiment la modernisation d'un pays, ça leur échappe complètement. Il y a une déconnexion et en fait c'est terrible parce que non seulement ils n'ont que le mot modernité à la bouche, ce qui est déjà un peu pénible et ce qui fait que ils évacuent beaucoup d'autres problèmes, mais en plus ils se font une idée très fausse de ce qu'est vraiment la modernité et de ce qu'est moderniser un pays.
Surtout ils ont beaucoup de mots à la bouche mais ils ont très peu d'actes dans les mains. Moi c'est ça qui me frappe beaucoup. Je me souviens quand Emmanuel Macron avait traité les anti-5G d'amish, vous vous souvenez, en disant voilà, ce sont des gens rétrogrades, etc. Mais en France, il n'y a même pas la 4G partout.
Non, il y a une blanche partout en France.
Voilà, je veux dire, prenez le train, essayez de travailler dans le train. Très souvent, le Wi-Fi du train, ça ne marche pas, par exemple. Alors, par exemple, dans l'avion, ça s'est amélioré. Pourquoi ? Parce qu'on a équipé les avions de Starlink, les avions Air France.
Merci Elon Musk.
Elon Musk qui est le diable, qui est l'ennemi de Raphaël Glucksmann, qui est l'ennemi de la gauche française, Elon Musk. Bon, alors c'est lui qui équipe le Wi-Fi de nos avions.
C'est lui qui
et c'est le seul truc qui marche. Non, mais moi, ça me frappe quand même.
On peut prendre simplement un point, celui des transports publics. C'est vrai que depuis la canicule de 2003, c'est donc il y a 23 ans, on pouvait penser qu'en 23 ans, on pouvait quand même transformer le réseau, le ventiler ou le climatiser et s'occuper des rails. Je regardais le Japon, qui est un pays qui connaît des canicules et des typhons. Il n'y a qu'en cas de typhon que les trains s'arrêtent. En cas de canicule, tous les rails depuis toutes ces années au Japon sont conçus pour résister à la dilatation. Le Shinkansen japonais, le TGV japonais, a toujours à l'année moins, sur l'ensemble du réseau, moins d'une minute de retard et ne s'arrête jamais sauf en cas de typhon. Et les rails résistent à la dilatation. En France, on a encore des rails qui datent du 19e siècle.
Ah oui, donc, mais si parce tu veux, là, c'est 50 ans.
Et c'est là où tu te dis, mais pourquoi ça n'a jamais été planifié? On avait même un commissaire au plan. Je vais pas refaire ma tirade sur le commissaire au plan.
Parce que c'est pas une priorité.
Mais
en plus, si tu effectivement, c'est les régimes spéciaux.
Mais depuis 23 ans, depuis la canicule de 2003, c'est là où on comprend pas ce que tu veux. Et tu as raison tout à l'heure. Tu as eu raison dans ce que tu as dit. C'est-à-dire que les rapports, on les avait, qui alertaient sur le réchauffement, sur les infrastructures.
Ces politiques passent notre temps à nous dire que le réchauffement climatique arrive.
Droite et gauche.
Allons-y, les gars.
On vit dans une démocratie et donc c'est le peuple qui a le pouvoir. Le peuple, il y a des gens dans les médias qui fait que leur expliquer toute la journée que toute personne qui a des idées écolo,
les écologistes ont été au pouvoir, Nicolas Hulot a été le ministre de l'écologie de Emmanuel Macron.
Le fait est que quand la gauche et les écologistes sont au pouvoir,
ils montrent leur débilité.
En fait, ce que cette canicule nous montre, et la seule chose qu'il faut retenir, c'est que même les politiques ambitieuses en matière d'écologie ne sont pas ambitieuses. Parce que ce qu'il faut faire est colossal. Et je pense qu'on sera d'accord là-dessus.
Mais
ce qu'il faut faire est énorme. Ce qu'il faut faire est colossal. Et donc même, regardez, les scientifiques du GIEC, eux, ils sont pas politiques, ils font de la science. Même eux, ils disent, on s'est planté. Non. Même eux, ils disent, on s'est planté. Nos rapports, ils sont en deçà de la réalité. Nos rapports, ils sont, on prévoyait en 2050 ce qui se passe déjà en 2026. Même eux, ils disent ça. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que même une politique qui vous paraît radicale d'un point de vue écologique, n'est en fait que même pas assez ambitieuse.
Mais c'est faux. Parce que quand les écologistes sont au pouvoir, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Pardon, excuse-moi, mais François Hollande a été élu avec les écologistes qui ont, Cécile Duflot était ministre. Nicolas Hulot, au début de son premier quinquennat, nomme Nicolas Hulot, l'écologiste le plus célèbre de France.
Et il démissionne.
Au ministère.
Pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à travailler.
Mais non, pas du tout. Ils tiennent un discours anti-nucléaire, alors qu'on s'est aperçu que, heureusement qu'on a bien nos nucléaires.
Parce que les écologistes au pouvoir ferment des centrales nucléaires, ce qui aggrave le réchauffement climatique.
De décroissance, alors qu'on a besoin d'énormément d'argent pour les hôpitaux, pour la police, pour l'armée. Enfin, en fait, c'est ça le problème.
Et ils veulent maintenir la retraite à 60 ans.
Tout ce qui
a
été préconisé se heurte contre le mur du réel.
Dans un instant, on sera avec Olivier. Olivier, il est transporteur. Alors, il est assez effaré. Olivier, notre ami transporteur, du côté de Calais. On sera avec Samy, prof d'histoire aussi dans l'Hérault. Donc, restez avec nous. Alors, le gouvernement face à la canicule, on est dans la com. Pourquoi est-ce qu'on n'a rien transformé? Pourquoi est-ce qu'on est encore dans le constat d'échec? On en discute avec vous. Il est 9h15. Vous êtes avec les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
On va continuer de discuter, bien sûr, de cette canicule. Savoir si c'est un gouvernement de com, si les écologistes, en fait, nous ont prévenus à temps, mais fait perdre du temps ensuite. C'est Olivier qui est avec nous, transporteur dans le Pas-de-Calais. Bonjour, Olivier.
Oui, bonjour, les GG.
Pensez que là, le gouvernement a pris la mesure ou pas des choses?
Non, du tout. Je pense que c'est de la com. Et puis, concrètement, j'allais sortir une petite phrase de Jacques Chirac il y a plus de 24 ans à Johannesburg, où il disait « Notre maison brûle et nous, pourtant, nous regardons ailleurs ». Force est de constater que 24 ans après, rien n'est fait de la part de nos pouvoirs publics, de notre pays, voire du monde, et on met ça sous le tapis et puis on laisse faire. Et puis, il y a danger pour l'humanité. Il y a danger pour l'humanité aujourd'hui. Et puis, dans le fond, bien sûr, il y a les problèmes de gaz à effet de serre, mais il faut surtout un véritable plan Marshall pour revoir les hôpitaux, les écoles, les trains, les avions, etc., etc. Revoir tout ça pour que notre vie s'améliore avec le changement climatique.
Oui, mais Olivier, c'est pas seulement une question de savoir est-ce qu'on a eu les moyens de faire ou pas faire, c'est qu'il y a eu une volonté de refuser, par exemple, le débat sur la climatisation est très intéressant, parce que maintenant il y a un consensus, j'entends même Marine Tondelier nous expliquer qu'elle est pour la clim alors qu'elle écrivait le contraire il y a quelques années. Donc,
il y a quelques semaines.
On nous expliquait que quand il fallait climatiser, on était de droite, voire d'extrême droite. Bon, on est sorti de ce débat idéologique, mais pendant très longtemps, j'ai vérifié, il y a des institutions payées par nos impôts comme Santé publique France qui avaient un chapitre en 2025 qui s'appelait « Pourquoi éviter la climatisation ?» Tu vois, je termine, Santé publique France. Aujourd'hui, même François Gémen, que tu aimes beaucoup, j'imagine,
Florent Guébali, membre
du GIEC, dit, bien sûr, la clim, il n'y a pas de débat. Mais il faut climatiser, il faut s'adapter. Ça n'empêche pas la rénovation thermique, mais ça ne suffit pas à la rénovation thermique. D'autant plus
Olivier,
que la rénovation thermique, ça coûte plus cher
Olivier,
que la clim.
Olivier, le problème, c'est que les problèmes, ils sont toujours un peu plus compliqués que ce qu'ils en ont l'air.
C'est pour ça qu'on les résout pas.
Bien sûr qu'il faut climatiser, notamment aujourd'hui, dans un EHPAD ou dans un hôpital.
Mais même chez soi.
Il y a des gens qui meurent de la chaleur, donc c'est évident.
Et même chez soi.
En revanche, il y a un truc qu'il faut dire aussi aux gens. Une climatisation sans rénovation thermique, ça peut augmenter les factures. On va avoir des montants écrits sur les factures qu'on n'a jamais vus. Donc en fait, si on ne prend pas le problème dans sa globalité, le plan clim de Marine Le Pen, c'est de la com.
En
fait, Marine Le Pen et Sébastien Lecornu, ils ont un gros point commun. Ils font que de la com. Quand Marine Le Pen, elle vous dit on fait un plan clim, et quand Sébastien Lecornu, il dit mes ministres partent pas en vacances.
Voilà, c'est encore dans le truc,
tant
c'est la droite et l'extrême droite. Et quand les Français te disent si vous climatisez, ils sont quoi alors?
C'est des nazis. Attends,
minimum.
Je vous parle là en tant qu'entrepreneur dans la transition écologique. Il y a une réalité, c'est que si les factures augmentent drastiquement, les gilets jaunes, pourquoi ils étaient dans la rue?
Parce que
leur facture
aussi,
avait augmenté. Moi, j'ai jamais été contre le nucléaire, j'ai toujours été pour.
Et donc,
c'est pas vrai?
Si, parce
c'est
que
pas vrai. Là, ce que je te dis, c'est factuel.
La plupart des écologistes étaient contre.
Donc en fait, oui, mais moi, j'ai jamais été contre. Donc, et moi, je suis la première à savoir critiquer. Je pense que j'ai prouvé aux grandes gueules que je savais critiquer tout le monde quand je trouve ces personnes critiquables. Là, ce que je vous dis, c'est juste que si on veut faire augmenter les factures des Français jusqu'à ce que plus personne ne puisse se la payer, la clim, en fait, ça sert à rien. Donc il faut un plan général. Aujourd'hui, il y a plein de manières aussi de rafraîchir les bâtiments. Oui. Et la rénovation thermique, c'est la compétence toutes les collectivités selon le bâtiment public dont on parle. Mais personne ne l'a fait. Oui. Donc, en fait, à un moment, la classe politique, on peut aussi critiquer dans son ensemble.
Attendez, je voudrais poser une question à Olivier, qui est toujours avec nous, puisqu'il est, il est à Calais. Pas de Calais. Est-ce que vous êtes inquiet, vous, parce que pour le moment, le nord de la France est relativement épargné, mais là, il fait très chaud quand même chez vous aussi.
Oui, il fait chaud, mais grâce à Dieu, nous sommes relativement préservés. Nous avons 30 degrés, donc c'est supportable, bien sûr. J'ai la chance d'habiter une région, en plus à Calais, proche de la mer, donc
ça tempère.
Qui tempère exactement la température. Mais je suis d'accord avec vous. Alors, faut-il payer plus pour sauvegarder nos vies? Bah oui, moi je suis pour, parce que il y a un risque, je le dis franchement, un risque pour l'humanité si nous continuons comme ça à fermer les yeux et en disant que ça soit les ministres, les pouvoirs publics, etc., sans incriminer personne, tout va bien, nous gérons ça, buvez de l'eau, restez au frais, c'est très bien, c'est sympathique, c'est gentil, mais voilà, ça n'avance pas le problème.
Olivier, je vous remercie d'avoir été avec nous, transporteur dans le Pas-de-Calais, merci, à bientôt pour de nouvelles discussions, non, Charles, et puis ensuite on ira voir Samy à Montpellier.
Il y a un truc qui me pose question, c'est comment on a construit ces derniers temps, parce qu'en fait les bâtiments qu'on adapte, ce sont des bâtiments récents. En réalité, les vieilles maisons et les vieux immeubles parviennent tout à fait à rester frais, même au cœur des canicules. Ma maison du Jura, elle reste fraîche malgré la canicule. Elle n'a pas besoin de rénovation, je ne sais pas quoi, etc. On ferme les volets, on ouvre les fenêtres la nuit, basta, la maison reste fraîche. Mon appart à Paris, qui est dans un vieil immeuble, pas un immeuble luxueux, un vieil immeuble modeste, pareil, il reste tout à fait frais. Alors, il est orienté, il n'est pas plein sud, mais il reste tout à fait frais. Alors, donc, c'est qu'en fait, on a construit un peu n'importe comment. Tout le monde a voulu se faire des baies vitrées à la con et découvre que quand on se fait une baie vitrée, on a chaud l'été et froid l'hiver.
Pas seulement, parce qu'il y a la nouvelle gare de Nantes qu'on nous a vendue comme étant bio, je sais pas quoi.
C'est une catastrophe.
Biodiversité, c'est une catastrophe, c'est une fournaise. Oui. Mais pourtant, c'est vendu comme étant un truc écolo.
Parce qu'elle est en vert.
Oui, elle est en vert.
Parce qu'il y a quand même une énorme connerie.
À Nantes, la circulation d'air, mais ça devient, ça
fait. De toute façon, moi, je pense qu'il faudra,
il faudra se diriger
vers un Nuremberg des architectes. On va faire le grand procès des architectes et de leur délire qui, sous prétexte de modernité, nous ont amené une régression colossale.
Le fameux fond vert. Vous savez, le fond vert. Alors, j'entends certains dire, c'est terrible, le fond vert, on a réduit. Mais le fond vert ne prévoyait pas la clim. C'est-à-dire que la climatisation ne rentrait pas dans les subventions accordées par le fond vert.
Donc, on va aller à Montpellier, parce que, alors, Montpellier, ça cogne, ça bastonne. Hein. Samy, bonjour.
Bonjour.
En plus d'être prof d'histoire, là, combien vous avez en ce moment à Montpellier?
Alors, étonnamment, vous avez vu sur les vigilances, l'Hérault est le seul département qui est en vigilance jaune, un des seuls. On a que 33 degrés, nous, 32-33 degrés, entre guillemets.
Et c'est contre-intuitif.
Et dans vos écoles, alors, comment ça se passe là?
Alors, dans les écoles à Montpellier, il y a des ventilateurs plafonniers systématiquement. C'est pas une solution miracle, mais ça permet de rendre l'ordinaire plus supportable, on va dire. Que ça crée une espèce de sensation un peu au niveau de la peau qui est voilà. Mais bon, après, l'air est chaud, quand il est trop chaud, effectivement, si vous climatisez pas, il y a quelques écoles primaires qui commencent à être climatisées sur Montpellier et on nous avance un petit peu, comme le fait Flora, des arguments écologiques à Montpellier, mais qui sont souvent sous couvert d'économie. Parce que quand on creuse la question avec les élus, moi je suis parent d'élèves élus en plus dans une école primaire, on parle d'écologie pendant un quart d'heure et au bout d'un moment, l'élu me dit mais vous savez, climatiser des écoles, il y a 120 écoles à Montpellier, ça coûterait 150 millions d'euros. Et moi, je lui ai dit...
Mais ça coûte plus cher de ne pas climatiser parce que l'économie est à l'arrêt.
Vous savez, si vous faites, un référendum d'initiative populaire, vous proposez aux gens est-ce que vous seriez favorable à la climatisation des écoles, y compris si ça augmente les impôts locaux et qu'il y a de la transparence là-dessus. Je suis pas certain que les gens soient massivement défavorable.
Mais surtout que quand on doit garder ses enfants, parce que par exemple à Paris, je reprends cet exemple parce que étant parisien, c'est que pour l'instant les écoles ferment,
quasiment toutes.
Pas qu'à
et,
Paris.
Et on dit, et pas qu'à Paris, mais c'est celui que je connais, donc ça c'est factuel. Et on nous dit, gardez vos enfants. Mais donc les parents s'organisent, donc travaillent pas, travaillent moins. Donc on n'a pas compris que ces périodes caniculaires, si on met la France à l'arrêt avec les congés climatiques, etc., c'est moins d'argent qui rentre dans les caisses. Et si moins d'argent rentre dans les caisses, on pourra encore moins moderniser ce pays.
Mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est repenser le calendrier scolaire. Enfin, aussi, je pense, travailler un petit peu aussi en bonne intelligence. Ça n'a aucun sens dans des régions, par exemple, comme Montpellier, à l'école primaire, de mettre les enfants à l'école jusqu'au 3 juillet.
Moi, il faut supprimer une semaine de vacances à la Toussaint.
À réduire les vacances au printemps et en hiver et à la Toussaint, au lieu de 2 semaines, les passer sur 1 semaine, mettre les enfants plus tôt en vacances en été et éventuellement les faire revenir après le week-end du 15 août. Parce que les chaleurs qu'on a après mi-août, c'est pas du tout les mêmes que celles qu'on a en juin. Après, enfin, juste
voilà,
une chose.
Bon courage à vous, hein.
Non, mais ouais, bon, je le sais bien, faut être utopiste, hein. Après, juste une chose. Le problème qu'on a, c'est pas le problème de la France. Parce qu'en France, on est 68 millions. On peut faire ce qu'on veut en France. C'est pas ça qui changera l'avenir de l'économie mondiale. Et la question politique et philosophique qu'il y a derrière, c'est qu'aujourd'hui, on est 8 milliards sur la planète, bientôt 10, et que, il y a 1 milliard de Chinois et 1,5 milliard d'Indiens et bientôt quasiment la même chose en Afrique qui sont en train de sortir du sous-développement et de la misère. Ça, on ne peut que s'en féliciter. Et en réalité, moi, ce que je ne comprends pas dans ce débat-là, c'est qu'en Occident, le discours écologique, pour moi, c'est la manière dont je l'interprète, c'est du colonialisme déguisé. Parce qu'en réalité, on est en train de dire aux Chinois, aux Indiens et aux Africains développez-vous si vous voulez, mais nous, les experts occidentaux du GIEC et les gens savants et les gens instruits, on va encore vous dire d'une autre manière comment consommer. C'est pas bien d'avoir telle voiture.
Mais je suis pas d'accord parce que, Samy, les Chinois, ils sont en avance sur nous sur le changement, la transition énergétique et écologique.
Oui, d'accord, mais ils sont en avance sur nous. Mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'on est 300 millions.
C'est pas vrai, on est l'un des pays les plus décarbonés en France.
Mais en fait, là, on est en train de passer notre temps à dire que si le monde va mal, c'est à cause de la Chine qui se développe. In fine, c'est toujours ça la question. Mais en fait, il faut aussi arrêter de mettre des œillères. Si le monde va mal, c'est parce qu'on est nul. C'est parce qu'on a pris 40 ans de retard dans tout. Parce qu'on a désindustrialisé nos économies. Parce que l'industrie, c'est sale. Parce qu'on a, on a transformé les citoyens de nos pays.
Mais vous savez, vous parlez.
En consommateurs. On n'est que des consommateurs de choses qui ne sont produites qu'ailleurs. C'est ça le problème de fond depuis 40 ans.
Ça, c'est
et en plus, on ne consomme plus. On n'a plus d'argent.
Mais Samy,
le problème, Samy, c'est que ça fait consensus dans la classe politique, mais pour autant, ils n'agissent pas et ils ne changent pas les choses.
Mais Samy, vous parliez de la Chine. La Chine, la dépollution, c'était une question de survie, hein, puisque toutes les grandes villes c'était devenu irrespirable. Et aujourd'hui, ils ont mis le paquet sur l'électricité. Il y a qu'à voir d'ailleurs, les voitures mondiales seront chinoises. Ils ont mis le paquet sur le photovoltaïque.
Enfin, la France est l'un des pays les plus décarbonés.
Grâce au nucléaire.
Se flagelle toujours, d'accord. Mais on vit dans un pays très peu pollué par rapport à notre économie.
Mais pour les Chinois, c'est une question de survie. D'ailleurs, leurs villes sont en train d'être massivement dépolluées. David est avec nous. David, bonjour. David de Lyon. Alors, Lyon, c'est bien une fournaise, Lyon.
Eh ben finalement, pas tant que ça. On est même pas en rouge.
Ah bon, aussi
une fournaise, Jean-Michel Aulas, c'est complètement carbonisé.
Ah, effectivement, oui.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, aujourd'hui, justement, parce que vous êtes cadre ingénieur dans le nucléaire. Heureusement qu'on a le nucléaire ou pas?
Alors oui, heureusement qu'on a le nucléaire de mon point de vue. Et je tiendrai à préciser aussi, c'est pas parce que je travaille dans le nucléaire que je suis pas forcément pour l'écologie. On oppose souvent les deux en fait, et ça m'embête un peu parce que finalement, quand je dis je travaille dans le nucléaire, j'ai pas le droit d'avoir un point de vue écologique. Donc je tiens à le préciser quand même. Pour moi, globalement, pas dans le débat, vous l'avez déjà un peu abordé. Enfin, je pense que en fait, l'image est à la France un petit peu de ce que les gens veulent. Aujourd'hui, c'est le bien-être individuel qui est vraiment le totem intouchable et qui dirige tout. On l'a vu avec les gilets jaunes. On essaye de faire quelque chose pour mettre une taxe, pour essayer d'avancer sur l'écologie. Les gens sont dans la rue. Est-ce que c'est une majorité de gens? Est-ce que c'est une minorité de gens? Ça, on peut avoir le débat encore une fois. Mais finalement, on recule parce que les gens sont pas contents. Et systématiquement, quand on a voulu faire une grande réforme, aujourd'hui, on n'a pas pu la faire puisque on écoute finalement peut-être des fois des minorités populaires qui crient fort. Et avec ça, on pourra jamais faire avancer la France. Et je suis désolé.
Je suis pas sûr qu'un nouvel impôt. Un nouvel impôt fasse avancer la France. Les Gilets jaunes, c'était avant tout une révolte contre la fiscalité, une jacquerie anti-fiscalité.
Ou, Oui, mais enfin, est-ce que c'est aussi d'avoir une vision long terme? Enfin, en fait, encore une fois, c'est sur ce totem du bien-être individuel immédiat. Est-ce que la taxe, on va dire, à un moment donné, pour pouvoir financer... En fait, la taxe, si on avait dit il y a 4-5 ans, bah, vous aurez de la clim dans toutes les écoles quand il y aura la canicule en 2026, ça aurait peut-être pas été la même chose.
Dans un pays qui dépense 1 milliard 700 millions chaque année, je pense que l'argent, on l'a. Après, c'est des choix budgétaires. On peut pas dire qu'il y a pas d'argent public en France.
Il part dans les retraites.
clairement.
Et les dépenses sociales.
Il part dans les retraites et les dépenses sociales de manière générale.
Et le fonctionnement, c'est votre avis.
Je suis pas d'accord avec Flora quand elle parle aussi écologie. Pour moi, l'écologie, ça devrait pas être un parti. Enfin, l'écologie, ça devrait faire partie de tous les programmes, de tous les partis.
J'ai toujours dit ça
Flora a dit ça.
Et le problème pour moi du parti écologiste, l'ambition écologique, elle doit être financée, en fait. Et on peut pas financer une ambition écologique à coup de retraite à 60 ans, à coup de réformes qui ne sont plus, on va dire, d'actualité. Et on peut pas tout avoir, en fait. Donc, à un moment, c'est vraiment un choix. Et je pense que l'écologie doit être financée. Et elle peut pas être financée uniquement en taxant encore plus, peut-être tous ceux qui payent aujourd'hui. Et on doit vraiment avoir, je pense que la droite est finalement, je suis plutôt centre-droit, droit. Mais je pense qu'un programme, on va dire, plutôt libéral sera le plus à même de pouvoir financer la transition écologique.
David, bravo, David. Je vous remercie d'avoir été avec nous, David.
Peut-être juste un dernier point.
Je vous en prie.
On parle souvent aussi, par exemple, de la SNCF, et je suis le premier à taper sur la SNCF quand les trains sont en retard. Mais mettons aussi un peu de pragmatisme et peut-être un peu de technique aussi dans les débats, des fois. N'oublions pas que j'ai entendu des débats comme quoi, en Inde, ils arrivent à faire rouler leur train, même s'il fait 45 degrés, etc.
Au Japon
aussi. Alors, au Japon, oui, ils ont peut-être eu les moyens. Mais attention, parce qu'on a des conditions climatiques aussi, nous, des fois, qui peuvent être assez extrêmes. On a du moins 20 l'hiver, on a du 40 degrés l'été. Et c'est un défi technique, je peux vous dire, en tant qu'ingénieur, un défi technique pour avoir quelque chose qui fonctionne à toutes les conditions météorologiques et on va avec des trains qui roulent à 300 km/h. Donc
le Shinkansen roule à 400 km/h quasiment. David, si vous avez été aussi au Japon, c'est pour ça que je me permettais de prendre l'exemple japonais et vous devez connaître les performances des trains, j'imagine.
Mais ils ont pas simplement la tête à 60 ans.
Au-delà de ça, je m'étonnais, si vous voulez, David, du retard qu'on a pris dans la transformation des infrastructures, des rails, en voyant qu'il y avait des rails qui se dilatait encore à la chaleur et qui datait d'à peine début 20e siècle. C'était ce dont je m'étonnais. Mais je vous remercie d'avoir
apporté ces précisions, David.
Merci d'avoir été avec nous. On a posé la question, est-ce que les écologistes nous ont fait perdre du temps? Ils ont alerté. Et ensuite, est-ce qu'ils ont bloqué? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, oui, non. Vous mettez oui à 92%.
On aurait pu mettre les écologistes en prison, point d'interrogation.
Ça aurait peut-être été le même score. Oh là, attention, on joue pour la prime de match. Alors l'équipe de France de Didier Deschamps joue vendredi contre la Norvège, mais la Coupe du Monde continue et c'est 500 euros qui s'ajoutent à chaque but. Où en est-on en ce moment? On en est à une prime de match de 50 000 euros à gagner. Vous envoyez but par SMS au 7-32-16 pour gagner ces 50 000 euros. Vous avez 10 minutes devant vous. Ensuite, attention, coup de fil aléatoire pour ceux qui se sont inscrits. Et si vous avez le montant exact de la prime de match, les 50 000 euros sont pour vous. Il est 9h39, vous avez 10 minutes pour envoyer but par SMS au 7-32-16. But par SMS au 7-32-16. À vous de jouer, à vous de gagner. Me dis pas que c'est la clim qui te fait éternuer.
Oui, alors il faut quand même.
Clim sur les plateaux.
Il faut quand même dire la vérité. On est très bien lotis ici, puisqu'il doit faire 19 degrés en plateau. Mais c'est normal, parce que sinon les machines de télé ne peuvent pas fonctionner.
C'est vrai.
Mais du
c'est
coup,
important.
C'est vrai que j'ai jamais été aussi contente de vous retrouver que ce matin.
Allez, dans un instant, le On s'en fout, on s'en fout pas. Reste avec
beau,
les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Two, 9h45, ça veut dire qu'on a lancé le jeu il y a 6 minutes. Vous avez encore 4 minutes. N'oubliez pas pour la prime de match pour vous inscrire et envoyer but par SMS au 7-32-16. But par SMS au 7-32-16. 50 000 euros à gagner, c'est du gain de jeu. Donc, c'est exonéré d'impôts. Il vous reste 4 minutes. Allez-y, les 50 000 euros, c'est un coup de fil dans la journée. Ça peut tomber à tout moment et il faut donner le bon montant. 50 000 euros aujourd'hui, la prime de match, elle est peut-être pour vous. Il est 10h moins le quart, c'est l'heure du On s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Une réunion d'appartement en guise de meeting de campagne et de premier temps fort ce soir pour Édouard Philippe dans sa course à l'Élysée. L'ancien Premier ministre animera donc une réunion publique depuis son salon à son domicile du Havre et retransmis en direct donc dans un peu plus d'un millier de foyers en France. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Flora ?
On s'en fout pas.
Charles ?
On s'en fout pas.
Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Charles ?
Non, ben je suis sceptique. Et
tu peux pas participer à cette réunion d'appartement virtuel.
Déjà, moi, quand professionnellement, des clients me demandent un Zoom, tu sais,
oui.
des réunions en visio, je trouve ça insupportable. Déjà, les calls, j'ai du mal, mais alors les Zooms, c'est l'horreur. Donc, faire des Zooms pour parler de politique avec le Christophe Béchu. Je sais pas comment te dire, je pense que.
Et Jérémy Patrialetus.
Et Jérémy Patrialetus, on les salue tous les deux ici.
Oui.
C'est qui? Bien sûr.
Ce sont des gens valables.
Et on pourrait citer Laurent Marcangeli aussi.
Voilà. Un bon petit zoom en pleine canicule avec Marcangeli.
Bah, ce sont les futurs ministres de la France, monsieur Bonnet.
Voilà,
je connais pas.
Je suis étonné quand même, mais bon, peut-être que je sais pas.
Est-ce que c'est moderne de faire des réunions d'appartements virtuelles, c'est-à-dire qu'au même moment, au lieu d'aller dans un appartement physiquement, voilà, il y aura 1000 appartements face à Édouard Philippe.
Bah, moi, je suis contente d'entendre parler d'Édouard Philippe parce que jusqu'à présent, sa campagne, on n'en entend pas trop parler. Donc j'attends de voir avec curiosité ce qu'il va raconter. Et surtout, on a reçu effectivement le député Patrialetus qui nous a dit, mais il a fait une heure de présentation de son plan sur l'IA. Moi, j'ai pas vu, j'ai pas entendu. Donc moi, les politiques qui s'adaptent pas aux nouveaux moyens de communication, ils sont hors jeu en fait. Donc il faut qu'ils comprennent que comment ça fonctionne, parce que il y a une présidentielle quand même au bout du chemin.
Ouais, mais est-ce que finalement, là, on fait pas un faux procès, parce qu'en fait, j'ai l'impression que tous les politiques sont inaudibles en ce moment. On n'a pas envie vraiment d'entendre.
Non, Mélenchon n'est pas inaudible. Excuse-moi, Mélenchon n'est pas inaudible. Et Bardella n'est pas inaudible.
Voilà. Parce que
excuse-moi, c'est les députés du Bloc central qui sont.
Parce qu'ils ont leur candidat depuis longtemps et qu'ils sont en mouvement et qu'ils râlent.
Et qu'ils ont quelque chose à dire.
Non,
ce n'est pas le cas de.
Parce qu'ils
ne comprennent pas la nuance.
Parce qu'ils disent rien de subtil et rien de complexe, donc c'est facile.
Mélenchon, il est audible. Bardella, il est audible.
Oui, mais parce qu'ils sont radicaux et qu'ils ne sont pas dans la nuance. C'est sûr que c'est plus facile quand tu dis tout et n'importe quoi,
bah
d'être
oui.
audible.
Tout et son contraire.
On enchaîne.
Les GG.
On m'a pas demandé mon avis.
Tu venais de le donner, c'est pas ça.
De toute façon, j'ai dit que je m'en foutais pas. Moi, je suis un peu sceptique, en effet, devant les soirées Tupperware de Monsieur Philippe en appartement. Et j'ai l'impression qu'en effet, avec cette promotion de Zoom, il est dans la nostalgie de sa période Covid, où il était à Matignon, et vous savez, donc où il fallait confiner les Français, donc tout faire par Zoom. Et je pense que Monsieur Philippe était un peu nostalgique de cette grande réussite, de cette grande période de sa vie que fut la gestion du Covid, et donc qui veut, en quelque sorte, organiser des sortes de soirées confinement avec une visio où on fera un peu tourner les tables à distance. Et par ailleurs, je remarque également que Monsieur Édouard Philippe, avec ses idées, se giscardise. Parce que c'était la grande idée de Giscard. À l'époque, c'était d'aller dîner chez les Français. C'était la grande mise en scène du giscardisme. Et donc, eh ben voilà, Édouard Philippe se giscardise. Mais je ne suis pas sûr que ce soit un vrai signe de modernité.
Bon, les GG, en pleine canicule, les lieux culturels adaptent leurs horaires d'ouverture, évidemment, mais pas dans le bon sens, à la Tour Eiffel, qui ferme ces jours-ci à 16h au lieu de minuit 45. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles ?
On s'en fout, franchement.
Ah bon ? Jean-Loup ?
On s'en fout pas.
Ma chère Flora, plutôt que de rester fermé au plus chaud de la journée et ouvrir le soir, bien non, les visiteurs pourront profiter de la Dame de Fer en plein cagnard, sous 42 degrés. Flora ?
C'est pas faux, parce que en fait dans les villes comme Paris qui ont beaucoup de béton, le pic de chaleur il est pas à midi comme on a appris à l'école. Vous savez que le soleil il est au zénith à midi, il est en fin d'après-midi parce que la chaleur elle est concentrée dans le béton toute la journée. Et donc vous l'aurez remarqué tout seul, c'est vers 17-18h que c'est insoutenable.
C'est vrai, et
en ce moment en plus il y a les jours qui s'accumulent, donc plus on avance dans la canicule plus ça devient insoutenable.
La nuit alors, parce que la Tour Eiffel habituellement ferme à minuit. Pourquoi ne pas laisser un créneau horaire de 20h à minuit où il fait quand même moins chaud à minuit?
En tout cas, 16h-21h, c'est en ce moment les heures les plus chaudes à Paris.
Ouais.
Jean-Loup.
Non mais c'est marrant parce qu'on est un pays qui a désindustrialisé massivement, qui est en train de détruire son agriculture. On n'a plus qu'une seule ressource, c'est le tourisme. Bah oui. Et du coup, notre seule ressource, on ferme l'accès. Ben voilà, les touristes chinois ou japonais, on ferme l'accès du seul truc qui fonctionne encore à peu près en France, de notre dernière source de revenus.
Tout le monde entier peut voir.
Voilà. Combien d'années que t'es pas monté sur la Tour Eiffel, Charles?
Est-ce que tu y es monté déjà? La Tour Eiffel, il n'y a pas pire qu'un appartement vu Tour Eiffel. Faut vraiment être con pour aller voir la Tour Eiffel. Non, pardon, je l'ai dit à l'antenne.
On enchaîne.
Mais les touristes chinois ne nous écoutent pas.
Bon, les GG, les Républicains veulent une commission d'enquête sur les aides sociales. C'est ce que propose le groupe de Laurent Wauquiez à l'Assemblée pour, je cite, dresser la liste des dérives. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Charles?
On ne s'en fout pas.
Flora?
M'en fous.
Jean-Loup?
On s'en fout pas.
Charles?
Non, je pense qu'ils ont raison. Moi, je suis pour des commissions d'enquête sur toutes les dépenses publiques, sur le modèle de la commission d'enquête qui a visé l'audiovisuel public. Je pense qu'il faudrait en faire sur toutes les dépenses publiques, donc sur les aides publiques, pourquoi pas.
Jean-Loup.
Non, mais la France, c'est 1% de la population mondiale, et par contre, c'est 15% de la dépense sociale mondiale. C'est-à-dire que la petite France, à elle seule, représente 15% de la dépense sociale mondiale, avec en effet beaucoup de dérives, et vous voyez comme mon micro qui dérive, et donc avec en effet énormément de dérives, et je pense que une enquête s'impose. Voilà, et qu'il y a un problème avec le modèle social et on n'arrivera pas à faire face aux défis, les défis de la réindustrialisation, défis militaires, défis climatiques, avec une belle gabegie.
Quel candidat aura le courage de dire il faut moins dépenser, on dépense un pognon de dingue pour reprendre l'expression d'Emmanuel Macron, il va falloir tailler dans les pans sociales. Quel candidat pense se faire élire et ensuite pense gouverner
la majorité populaire en faisant ça? Je suis convaincu que c'est possible, que les Français ont changé de braquet là-dessus.
Non, parce que les Français pensent que ça va pas les concerner. C'est-à-dire que t'es d'accord pour qu'il y ait moins d'allocs, moins d'aide, mais à condition que ça ne te concerne pas, toi.
Mais il y en a plein qui touchent pas d'aide, hein. Moi, je touche pas d'aide.
Oui, toi, mais 60%
touche pas d'aide.
60% des Français,
je touche pas d'aide.
Mais si t'appelles la police, les urgences,
c'est pas
la redistribution.
Dont on parle, c'est pas une aide sociale.
Je me fais jamais rembourser à un médecin.
Ah bon?
Une aide sociale. Bah,
et puis tu parles du service public, ça n'a rien à voir avec les aides sociales.
T'as une carte vitale.
Mais je vais jamais chez le médecin, j'ai une carte vitale, oui, mais par exemple, quand il faut se faire rembourser un truc après, j'oublie tout le temps de le faire, je le fais pas. Je touche pas d'aide.
Il y a
plein de Français qui touchent pas d'aide. Oui, mais souvent, j'ai pas ma carte vitale sur moi. Il y a plein de Français qui touchent pas d'aide.
Tout le monde bénéficie d'un système.
Il faut les respecter quand même.
Qui en ont pas besoin.
Il y a plein de Français qui payent tout plein pot, attention.
Oui, mais là, on veut une commission, mais les rapports, on les connaît. Il y en a déjà eu des rapports, si tu veux, sur les abus, sur la triche, sur la fraude. Tout ça, on le connaît. Donc, ça veut dire que ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont qu'à agir. Ils n'ont qu'à faire ce qu'il faut.
Monique Barbu n'a qu'à agir.
Mais je me souviens notamment du livre de l'ancien magistrat
Charles Prats,
Cartel des fraudes. Il y avait eu des commissions, il y avait eu des auditions. Les montants sont connus. La Cour des comptes a publié des rapports
là-dessus. Et par exemple, il y a quand même un problème, c'est qu'il y a plus de cartes vitales en France que d'habitants.
C'est pour ça qu'ils veulent faire une carte vitale biométrique.
Voilà, oui, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même un niveau de fraude qui est hallucinant.
Je pense que Wauquiez veut que les Français prennent conscience du montant des dépenses sociales. Je suis pas sûr que les Français, moi, contrairement à ce que dit Charles, je pense pas que les Français soient précisément au courant de ce qu'on dépense chaque année en aide sociale, en remboursement de sécu, on rembourse les cures thermales, vous voyez. Il y a pas de clim dans les écoles de nos enfants, mais on rembourse les cures thermales.
On fait des choix politiques.
Et donc, est-ce qu'il faut continuer à faire ces choix politiques qui privilégient effectivement une France plutôt de rentiers et pas celle qui forme une nouvelle génération?
Allez, dans un instant, on va regardez ce qui s'est passé à Narbonne. Narbonne, où 5 jeunes, dont 3 mineurs, ont été mis en examen. Ils ont même d'ores et déjà été placés en détention provisoire parce qu'ils ont passé à tabac un jeune de 17 ans. Le jeune était à l'aide sociale à l'enfance. Il a été véritablement lynché, des coups de pied au visage, et il est mort de son traumatisme hier soir.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.